Et puis, il y a des gens qui sont des experts de ce sujet, notamment sur la question, est-ce qu'on peut recréer des faux souvenirs chez des individus? Est-ce qu'on peut recréer de toutes pièces des faux souvenirs chez des personnes? Et une des personnes qui a pu travailler là-dessus, c'est cette dame-là, Elisabeth Loftus, qui est ici. Et Loftus, elle a fait plein d'expériences. Ça fait 40 ans qu'elle bosse là-dessus. Elle a fait un noir d'expérience là-dessus. Je vous en donne quelques-unes. En 79, elle projette un film avec une voiture qui s'approche d'un carrefour comme là. Vous voyez les deux photos qui sont là. Et il y en a une qui a été bricolée. Ils ont remplacé le stop par un CD de passage ici. Voyez, donc le premier groupe se tape cette arrivée de voiture, et puis qui repart après sur la gauche, je crois. Et puis c'est un stop. Et puis ici, c'est le CD de passage. D'accord ? Question commune, qu'a fait la voiture en arrivant au signal stop ? C'est la question qui était posée après le film. Voyez ? Et en fait, une semaine plus tard, le deuxième groupe, celui qui avait le panneau avec voyez, le passage, et ben, la question était quelle était la signalisation du panneau à l'entrée du carrefour. Et là, en fait, voyez, en posant la question, en glissant l'élément stop dans la phrase, les gens recréent le souvenir du stop alors qu'ils ont vu un autre panneau, quoi. Et donc, c'est plus de 50% des témoins du deuxième groupe qui affirmèrent que le panneau était un stop. Voyez. Bon, ça vous semble être un détail. N'empêche que sur une scène de crime, par exemple, si des gens doivent témoigner, ben, ce genre de détail peut être important, quoi. Alors, elle était plus loin. Hein. On peut dire que la formulation de la question suffit à modifier le souvenir d'un épisode dans une certaine mesure, mais elle était bien plus loin. Elle a fait des trucs vraiment géniaux. Elle a fait un autre film avec un véhicule qui roule. Quelle est la vitesse, groupe 1, quelle est la vitesse du véhicule au moment où il a dépassé la grange? Deuxième groupe, quelle est la vitesse du véhicule? Mais elle ne parle pas de la grange. D'accord. Et puis après, elle leur demande à tous, avez-vous vu la grange dans le film? Elle leur demande à tous 7 jours plus tard, hein, si je me rappelle bien dans le protocole. Et dans le groupe 2, qui était le groupe contrôle, quelle était la vitesse du véhicule? Vous voyez, 3% se souviennent avoir vu la grange. Dans le groupe 1, où on plaçait l'élément grange dans la question, on passe à 17%, ce qui est énorme. Mais il n'y avait pas de grange. C'est ça qui est flippant. Il n'y avait pas de grange. Donc la façon de formuler les choses, vraiment, a un impact et peut créer des nouveaux éléments dans le souvenir. C'est un drame, vous en doutez, sur le plan juridique. C'est un drame aussi, parfois, dans certains cadres thérapeutiques, où il y a des psys. Alors quand je dis psy, je fais exprès d'utiliser le préfixe psy, parce que très souvent, chez nous, ici en France en tout cas, on a tendance à ne pas être très précis sur ce qu'on entend par psy. Derrière le mot psy, vous avez 5 trucs différents. Le premier, on ne va pas le garder, c'est psychopathe. On l'enlève parce que c'est une thérapie un peu particulière. On ne garde pas ça. Vous avez psychothérapeute, psychanalyste, psychiatre et psychologue. Il y a des grosses différences entre... Vraiment, ce n'est pas la même chose, quoi. Les psychiatres sont des médecins avec une spécialité psychiatrique, donc de 3 ans en plus, donc c'est 10 ans d'études, normalement indexés sur un programme national, etc. Il y a un contenu scientifique derrière. Ça ne veut pas dire que le psychiatre ou la psychiatre que vous allez voir, c'est quelqu'un de sympa. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas à la merci des industries pharmaceutiques, par exemple. Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire qu'au moins, elle en a sous la semelle au niveau scientifique, quoi. Vous voyez, c'est une formation qui est authentifiée en quelque sorte. Chez les psychologues, il y a plusieurs chemins, mais en gros, soit vous avez un doctorat psychologie, soit vous faites un master 2, puis après vous pouvez... Il y a plusieurs versants, il y a des psychologues pour enfants, etc. Mais il y a aussi un contenu. D'accord ? Il y a un contenu. Psychanalyste, il n'y a pas de contenu précis, tout dépend de l'école dans laquelle vous allez. Et généralement, on dit que pour être psychanalyste, il faut avoir vécu une psychanalyse soi-même, une didactique soi-même, et adhérer à une école. Donc, vous voyez, en termes de contenu, c'est déjà... Vraiment problématique, quoi. Et les psychothérapeutes, c'était encore pire. Jusqu'en 2011, n'importe qui pouvait mettre sa plaque psychothérapeute. C'était pas protégé comme nom, donc n'importe qui pouvait le mettre. Et depuis, ils ont créé une loi qui est un peu particulière, à mon goût. Ils ont dit, ne pourront se revendiquer comme psychothérapeute que les gens qui peuvent justifier qu'ils font ce qu'ils font depuis un certain nombre d'années. C'est bizarre, quoi. À mon avis, ils ont fait ça pour éteindre le problème, si vous voulez. Ils se sont dit, les anciens qui pratiquent, on ne va pas les faire chier, sinon ils vont râler. Donc ceux qui ont fait ça depuis plus de 5 ans, on les laisse tranquilles. Puis les nouveaux, ben, ils ne pourront pas s'installer, quoi. Comme ça, on éteindra le problème des psychothérapeutes autoproclamés qui pullulent de partout, quoi. Et en fait, ça n'a pas bien marché, parce que maintenant, il y a des biopsycho-énergéticiens, il y a des biomachins, dans tous les sens, magnético-psycho, trucs. Enfin, n'importe qui peut bricoler son... Mais des titres qui désignent vraiment un diplôme avec un contenu derrière, il n'y en a pas tant que ça. Vous avez psychologue et psychiatre. Hein. Alors je vous dis ça parce qu'il y a pas mal de gens... dans le domaine de la psychothérapie un peu improvisée, qui utilisent des méthodes qui sont vraiment glauques et qui mettent en jeu la mémoire. On parle parfois de thérapie de la mémoire retrouvée. Ce sont des gens qui vont, par des processus plutôt insidieux, faire renaître en vous le souvenir d'un inceste dont vous n'avez pas la mémoire, ou d'un viol, ou d'un abus sexuel sur vous, parce que tous les problèmes que vous avez viennent forcément, dans leur théorie, d'un problème sexuel dans votre enfance. Je vous ai amené un extrait qui était passé dans dans un reportage avec caméra cachée d'un type qui était vivant encore à l'époque, qui s'appelait Bernard Lampert, mais qui est décédé maintenant, et qui pratique ça. Et vous allez voir, je ne vais pas vous faire pleurer au début, mais n'empêche que vous allez voir que ça a vraiment des dégâts sociaux assez importants. Hein.
Le jour où leur fille se rend chez un psychothérapeute pour une consultation. Après quelques séances, la jeune fille décide de couper définitivement les ponts avec sa famille.
Le comportement de ma fille a changé progressivement. Elle a commencé par se séparer de ses meilleurs amis, puis à vouloir se séparer de son conjoint. Et enfin, en milieu d'année, elle s'est séparée de nous. Autrement dit, elle a rompu tout ce qui était son cercle familial le plus proche.
Mais elle vous a accusé de quoi ?
Un exemple caractéristique, quand elle avait 2 ans, suite à une crise que tous les enfants font, une colère magistrale, sa maman l'a mise dans le bain. Et elle n'avait aucune raison de s'en souvenir, bien sûr, on lui a raconté. Et elle a mis ça en évidence comme étant une caractéristique des violences de sa maman. Et ça s'est très mal terminé parce qu'elle a fini par dire à sa mère au téléphone « Tu n'es plus ma mère ». Vous comprenez que ma femme, voyant ça, s'est mise à pleurer, bien sûr.
Et vous avez des nouvelles d'elle ?
Plus aucune. Hélas. Ben, la dernière fois qu'on s'est vu, excusez-moi. La dernière fois qu'on s'est vu, elle m'a traité de salopard. Ben, face à ça, j'ai pas de réponse. Je peux plus rien faire.
Ce psychothérapeute n'est pas un inconnu. Il est le fondateur d'une association qui, il y a quelques années, avait été déclarée dangereuse par la mission antisecte. Nous décidons de prendre rendez-vous avec lui pour une consultation. Des murs blancs, un cabinet dépouillé quelque part dans Paris. Notre collaboratrice se fait passer pour une patiente. Elle débute en parlant des crises d'hystérie de sa mère.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Elle commençait à divaguer dans la cuisine. Elle disait qu'il fallait pas que je sorte, à fermer la porte à clé.
Immédiatement, le psy interprète cela comme des crises de délire. Il fournit à sa nouvelle patiente une première explication.
En délire, il y a un sens caché, il y a un sens au second degré. Le délire n'est pas n'importe quoi, il est chargé de sens. C'est ce qu'on ne peut pas dire directement, alors on fait le détour.
Après 10 minutes d'entretien, le psychothérapeute pense avoir trouvé les causes du délire de la mère. Il expose son hypothèse.
Les manifestations de souffrance chez votre mère peuvent correspondre à une femme qui, enfant ou adolescente, a pu être victime d'atteinte sexuelle.
Notre collaboratrice poursuit. Elle parle de ses vacances lorsqu'elle était adolescente, lorsqu'elle passait l'été sans ses parents chez son grand-père.
Vous y alliez souvent ?
Oui.
Avec vos parents ou sans ?
Non, parce que des fois, justement, on était à Rome et puis...
Le psy a désormais tous les éléments pour fournir ses conclusions.
Si votre mère a été victime de son propre père, pourquoi vous envoyait-elle en vacances ?
Mais justement, si elle avait été victime, elle ne m'aurait pas envoyé. Pourquoi j'aurais m'envoyé dans la...
Oui, par emprise. Parce qu'en fait, les anciennes victimes peuvent, ce n'est pas systématique du tout, réexposer leurs enfants. Ça ne veut pas dire qu'elle voulait vous faire du mal, c'est pas ça que je veux dire. Mais que c'était plus fort qu'elle.
Voilà, cela fait exactement 20 minutes que le psychothérapeute connaît sa patiente. Il vient de lui asséner que sa mère l'envoyait chez son grand-père pour la placer en danger d'inceste. Même si ces hypothèses sont justes, l'attitude du psy est-elle responsable ? Le psychothérapeute est-il autorisé à asséner auprès d'une personne fragile des vérités aussi lourdes sans que la patiente ait été auparavant préparée à les entendre ?
Je suis vraiment confuse.
Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des psychothérapeutes qui font n'importe quoi, qui mettent des gens dans des situations de stress, d'agression psychologique extrêmement intense, soit individuellement, soit en groupe, et ensuite qui les laissent en dérive sans aucune assistance. Moi, j'ai eu dans ma pratique quotidienne à récupérer les dégâts de psychothérapeutes autoproclamés, de psychanalystes autoproclamés, de psychiatres incompétents qui pratiquent quelque chose qu'ils maîtrisent plus ou moins bien, qui désorganisent le patient du point de vue psychologique et ensuite qui le laisse se débrouiller pour se reconstituer en disant « moi je m'en lave les mains maintenant qu'il évolue et qu'il grandisse tout seul ».
Malsain, hein. Généralement, ces thérapies de la mémoire retrouvée prennent corps sur un corpus qui est maintenant moribond. Hein, je vous l'ai déjà dit, le freudisme est vraiment un héritage que la plupart des psychologues ont abandonné. Et avec notamment la notion d'étiologie sexuelle des névroses, avec l'idée que soit ce que vous avez comme mal-être maintenant viendrait d'un abus sexuel ou d'une situation sexuelle dans votre enfance, soit, ce qui a bricolé Freud ensuite, soit de l'envie que vous auriez eu potentiel d'avoir un truc dans votre enfance qui soit de type sexuel. Enfin, en gros, le truc irréfutable, quoi. Donc méfiez-vous de ça, et sachez surtout qu'il est impossible, une fois qu'un souvenir a été recréé de toute pièce comme celui-là, de distinguer entre un vrai et un faux souvenir. Il n'y a pas de moyen, on ne connaît pas de moyen de faire ça. Il y a plein d'expériences depuis qui ont été menées et qui sont très délicates à monter par notamment Jacqueline Picquerel, Loftus, tous ces gens-là, pour montrer comment faire pour démontrer qu'on peut implanter des faux souvenirs sans pour autant que ce soit moralement dégueulasse de faire ça sur des sujets. Alors, c'était amusé à faire des expériences qui ont été assez célèbres. Il y en a une qui est vraiment géniale, qu'on appelle l'expérience de Bugs Bunny. Je vous la raconte rapidement. Hein. Elle avait demandé à ses étudiants d'aller prendre un petit cousin ou un petit frère ou un petit neveu dans leur famille ou une petite sœur ou une petite cousine. Et en leur racontant une sortie à Disneyland qu'ils avaient probablement fait dans leur enfance, ils gardaient les cas donc des enfants qui avaient fait une balade à Disneyland. Ils leur disaient, tu te rappelles de quoi? Alors ils leur faisaient raconter un petit peu, puis ils leur disaient, tu te rappelles le château de la Belle au Bois dormant? Ah bah oui, là, là. Puis des éléments qui sont vraiment réels. Quoi. Puis après ils disaient, tu te rappelles, on a mangé une glace? Ah ouais, peut-être bien, c'est vrai, ça me dit quelque chose. Et puis tu te rappelles pas, il y a Bugs Bunny à un moment qui est arrivé, qui t'a pris dans ses bras. Et puis la personne dit, ah bon, ça me dit rien. Puis en fait, vous revenez une semaine après, puis vous redemandez. Puis elle dit, ah oui, je m'en rappelle maintenant, ça m'est revenu et tout. En fait, c'est pas possible. Et c'est là qu'on a la preuve qu'on peut recréer des faux souvenirs. C'est pas possible que Bugs Bunny vous prenne dans ses bras dans Disney, parce qu'il s'est gouré de crèmerie. Et c'est pas un personnage de Disney, Bugs Bunny. Il vient de la Warner, donc ça veut dire qu'il s'est trompé de maison. Vous pouvez pas croiser Bugs Bunny, à part si c'est un client qui se promène, qui s'est déguisé, quoi. Mais c'est pas possible, normalement. Et puis il y a eu d'autres expériences, je vous en ai mis une en lien, qui est assez flippante sur comment auprès d'étudiants on a pu recréer un faux souvenir. Ça c'est Porter et sa collègue qui s'appelle Shaw, je crois, qui ont recréé en 2015 une expérience qui consistait à des étudiants de votre niveau, de votre âge, à recréer chez eux un souvenir de quelque chose qui était de l'ordre du crime dans leur enfance et qui était faux. En partant de vrais souvenirs et en greffant une fausse histoire à côté, et ben, avec le temps, vous arrivez à convaincre, plus des deux tiers des étudiants qui, à la fin, oui, c'est vrai, je me rappelle de cette agression à main armée que j'ai fait à l'âge de 12 ans, voyez, et c'était pas vrai. C'est flippant, hein. Éthiquement parlant, c'est difficile à construire, hein, parce que vous pouvez désorganiser complètement une personne et la mettre mal à l'aise. Le monsieur que vous avez vu parler, il s'appelle Jean-Marie Abgral. Il est auteur de plusieurs bouquins de psychologie sociale dont je vous parlerai dans le cours spécifique. Sur les thérapies de la mémoire retrouvée, vraiment, c'est important. Si des gens, thérapeutes, disent être capables de faire réémerger des souvenirs que vous avez enfouis, à ma connaissance, ça n'existe pas de faire réémerger des souvenirs enfouis. Voilà. Donc si on vous fait réémerger, reconstruire lentement et patiemment un souvenir d'abus, méfiez-vous, quoi. Là-dessus, il y a quelques bouquins. Et notamment, on a une grenobloise qui bosse beaucoup là-dessus, Brigitte Axelrad, qui est souvent venue dans ce cours ici, que j'apprécie particulièrement. Elle a fait des articles qui sont en ligne, qui est très facile à trouver. Elle a fait un petit bouquin aussi qui est très, très facile d'accès. Vous avez aussi le gros bouquin de Loftus qui est ici, écrit avec Madame Ketcham, que j'ai au bureau en 2-3 exemplaires. Voilà. Donc, je vous encourage à compulser ces ouvrages-là si vous êtes confronté à ce genre de choses. Voici la référence de l'étude de Shaw et Porter. Je vous la mettrai en lien aussi. C'est terrible. On a même fait aussi ça sur des militaires et recréer des faux souvenirs lors d'attaques et ça marche. Enfin, c'est absolument terrifiant, quoi. Ce qui fait que le vrai problème moral que ça pose, c'est dans quelle mesure, en justice par exemple, quand le témoignage fait office de preuve, quel crédit donner au témoignage? Quand on sait, je sais pas, peut-être vous êtes trop jeune pour vous rappeler de ça, parce que ce mec a été il faut le dire, décapité quand même. Il était décapité en 1976, l'année de ma naissance, je suis né en 76. Il était décapité, c'est l'antépénultième, l'avant-avant-dernier à avoir été décapité en France. Il s'appelait Christian Ranucci. Il était condamné dans le cadre d'une affaire de meurtre d'enfant qui s'appelle l'affaire du pullover rouge. Et l'essentiel des choses qui l'ont accablé, c'était des témoignages visuels plus ou moins foireux, quoi. Et Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque, avait refusé la grâce et il a été décapité, quoi. C'est quand même, il faut se rappeler que jusqu'en 78, on a décapité les gens en France. C'est quand même étonnant. On a du mal à s'en rappeler de ça. Donc rappelons-nous qu'environ 30% des innocentés, les chiffres sont disponibles, après test ADN, avaient avoué. Ce qui pose le problème des contraintes que la police ou l'incarcération vous met quand vous, vous êtes privé de sommeil, complètement flippé, on vous accuse d'un truc, à force de le répéter, de vous faire répéter, de vous faire répéter, de vous faire... C'est pas impossible qu'on recrée des faux souvenirs et que les gens se mettent à avouer des trucs qu'ils n'ont pas fait. Vous voyez, ils sont disculpés après test ADN. Un exemple, Patrick Dils, et c'est pour ça que la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dédié ce cours à deux personnes. Une personne qui est encore vivante, Patrick Dils, une personne qui est décédée l'an dernier, au mois de septembre, je crois, c'est Roland Agré. Les deux ont fait 15 ans de tôle pour rien. Voilà, je tenais à le dire. Donc si un jour vous devez témoigner contre quelqu'un, rappelez-vous que le témoignage est loin de faire office de preuve. Et que si on veut se rappeler de la couleur d'une voiture qui a percuté quelqu'un, 10 minutes plus tard, il n'y a aucune chance que vous soyez sûr de vous. Hein. Même 5 minutes plus tard. Au début, je voulais faire un truc comme ça. Je sais qu'à la DGSE, ils font ça. Des fois, il y en a un au milieu de l'amphi, en plein milieu du cours. Il se lève et puis il tire à bout portant sur le prof, qui a un gilet pare-balles ou c'est une arme à feu, c'est une arme à blanc, si vous voulez. Et en fait, la personne après s'enfuit. Et puis tout le monde est paniqué, évidemment. Et puis après, on dit non, c'est une expérience. Essayez de décrire sur une feuille à quoi ressemblait la personne. Et en fait, les gens, même qui font partie des services secrets, hein, et qui sont en train de se former, sont pour la plupart incapables de se rappeler de la tronche de la personne, parce que la plupart du temps, les gens sont fixés sur l'arme. L'arme, c'est flippant, une arme. Quoi. Donc, on regarde l'arme. La plupart des gens ne se trompaient pas sur l'arme, mais ils ne se rappelaient plus du nombre de coups tirés, par où était partie la personne. Et par contre, ils témoignaient très souvent quand même d'un type ou d'un faciès particulier. Et là, on note un truc vraiment très troublant. C'est que les témoignages, ce dont se rappelaient les gens de la personne qui avait tiré, ça allait toujours vers le sens des stéréotypes sociaux. C'était souvent un arabe, entre guillemets, ou quelqu'un de basané, vous voyez comme c'est dingue. Notre cerveau, il est imprégné de conneries, quoi. C'est assez terrible. Bon, bref. Voilà, autodéfense intellectuelle, nos sens peuvent nous tromper, rappelez-vous de ça, hein, à vie, quoi. Le tri des données fausse l'interprétation, méfions-nous de nos témoignages, et notre mémoire est suggestible et facilement détournable.